Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Bébrix, roi des Bébrix, peuple d'origine ibère établi à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ en Gaule celte, c'est-à-dire la partie ouest du golfe du Lion, puis sur les deux versants des Pyrénées. Bébrix donc avait une fille belle et douce qu'Ulysse séduisit avant de partir vers d'autres aventures. La femme, MeToo n'existait pas encore et cette pauvre jeune fille enceinte, ayant peur d'affronter le courroux paternel, s'enfuit dans la montagne où elle fut tuée par un ours ou des loups. À son retour, Hercule, pris de remords, rechercha son corps et c'est dans une des galeries de Lombrive qu'il l'enterra en prononçant ces mots « Afin que ton nom, ma belle et douce Pyrène, soit conservé à jamais par les hommes qui habiteront désormais les Pyrénées ». Il y a des variantes dans cette histoire, mais voici le décor dressé et nommé. Nous sommes dans les Pyrénées, dans ces profondes et mystérieuses vallées qui recèlent bien des secrets. Et ce sont justement ces secrets que nous révèle Francis Barrault, qui a recensé près de 1000 sites pyrénéens auxquels s'attache un conte, une légende, un pouvoir magique. Il a rassemblé ces sites dans deux ouvrages passionnants, intitulés « Milieux légendaires et mystérieux des Pyrénées », paru chez Rando Éditeur, et il est venu nous en parler. Francis Barrault, bonjour.
Bonjour Monique.
Ah oui, j'ai parlé des vallées parce que finalement, on va voir qu'il y a quelques exceptions, mais il y a peu de choses se passaient autrefois sur les sommets. Il n'y avait pas encore de Maurice Herzog et des demandes d'Hilary. Hein.
Non, mais il y a quand même beaucoup de sommets où il y avait des rites parce que tout simplement, il y avait plein de divinités, donc les gens y montaient, faisaient des rites pour
mais
ces divinités.
Mais pas des hauts sommets, c'était quand même...
Pas des hauts, mais on retrouve par exemple tel Mont Valier, qui est un petit peu moins de 3000 mètres, il n'y arrive pas, mais bon, déjà, il faut y monter. Et pourtant, là, il y a deux ou trois croix qui ont été mises succinctement par donc, l'évêque Valier, entre autres.
Donc j'ai parlé trop vite.
Mais oui, parce qu'il galopait déjà autrefois, quand même.
Mais les escalades, c'était un peu compliqué. Mais écoutez, alors, votre livre, j'ai renoncé à tout lire d'un coup, car chaque notation est intéressante, voire passionnante. Rien qu'en 30 premières pages, déjà, j'avais coché déjà 20 lieu récelant un passé étonnant. Alors, je me suis dit, bon, je vais piocher à droite à gauche, mais dans le fond, c'est ce qu'il faut faire avec ce genre d'ouvrage.
Oui, effectivement, c'est un ouvrage, en fait, on peut considérer que c'est un peu comme un dictionnaire parce qu'il est présenté comme ça, de A à Z.
Alphabétique.
Voilà, alphabétique. Donc, comme on disait, un premier ouvrage, je rappelle, qui fait de la Méditerranée jusqu'à la Haute-Garonne, côté français-espagnol, et le deuxième ouvrage qui fait Haute-Pyrénées jusqu'au Pays Basque, donc l'océan, là aussi côté français.
Oui. Et espagnol aussi.
Voilà. Et donc le but, comme on disait, ça a été d'essayer de rassembler des lieux bien précis, existants, des lieux donc où soit il y a quelque chose de mystérieux dessus, soit il y a une légende, soit il y a des anciens rites dont on a perdu quelque part l'histoire. Mmh. Des rites qui ont aussi été christianisés à un moment donné, important.
Alors d'abord, vous avez mis combien de temps, parce que deux ouvrages, vraiment, et chaque lieu est bien répertorié, combien de temps vous avez mis pour écrire ces deux ouvrages?
Alors, il y a eu toute une recherche qui s'est faite entre 8 et 10 ans. Une recherche, alors pas 10 ans à temps complet, on est d'accord, mais une recherche, j'avais déjà ça en tête, donc comme je vous dis, depuis 10 ans.
Vous aviez trouvé qu'il y avait un manque?
Déjà, oui, ça, il y avait un manque personnel parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et quand je recherchais des sites, je pouvais tomber sur un livre où il y avait 2, 3, 4, 5 sites décrits, un autre une dizaine. Voilà.
Vous êtes inspiré d'auteurs aussi comme Irène Gratacos, par exemple.
Tout à fait, oui, d'accord. Tout ce qui est les grottes avec des faits, etc. Ça vient de ces deux ouvrages, entre autres.
Parce que est-ce que vous êtes allé dans tous les lieux?
Alors, je n'ai pas fait entièrement tous les lieux, les 1000, je ne les ai pas faits, mais j'en ai fait
800.
Voilà.
98. Ce qui est quand même pas mal.
Pas loin, mais non, j'en ai fait beaucoup. Oui. Voilà, après, je ne les ai pas tous fait entièrement, mais beaucoup sont réalisés. Et le but, c'était avant tout, donc, de dire ce site, il existe à tel endroit, il s'est passé ça. Je le décris un peu, je ne donne pas mon avis, je retranscris ce qui m'a été dit ou ce que j'ai pu retrouver comme note, que ce soit sur des livres, dans les archives.
Alors, ça vous a été dit par qui, par exemple ?
Par exemple, des anciens, souvent. Ça peut m'arriver d'aller dans un petit village, me poser avec un ancien, par exemple, sur la place publique, et en discutant avec lui, lui demander si dans le secteur, il connaît un lieu où il y a une légende, ou alors un ancien rite, ou quelque chose qui s'était fait. Et souvent, les gens, ben voilà, ils me donnaient des renseignements, ou une grotte où ils ont entendu parler que ci, que là. Et à partir de là, voilà, c'est des premiers renseignements. Ouais, de là, je me renseigne un peu plus loin.
Et en Espagne, vous parlez espagnol ?
Alors, je ne parle pas du tout espagnol, même si c'est mes origines, mais sur l'Espagne, j'ai pu faire pas mal avec, en fait, des livres qui avaient été traduits en français.
D'accord.
Ou des personnes qui m'accompagnaient, qui, elles, parlent espagnol, où on a pu, trouver un compromis, on va dire.
Alors, Francis Bardot, vous avez... ça correspond à quelle époque ? Où est-ce qu'on peut situer ce qui s'est, à quel moment se sont passées
toutes les époques,
toutes les époques, oui.
Toutes les époques. Disons que souvent, effectivement, on peut parler d'un lieu. Je vais simplifier. On va parler d'une source, par exemple, qui a été toujours dite qu'elle a été vénérée. Alors, à l'heure actuelle, effectivement, cette source, on peut continuer à venir chercher de l'eau parce qu'elle a des propriétés. Mais si on commence à remonter le temps, si on va dans les archives ou autres, on va commencer à trouver des traces que cette source, à un moment donné, les gens, depuis la nuit des temps, ils y allaient parce qu'ils avaient une divinité de l'eau. Donc au départ, ils y allaient pour des rituels, mais après, ils récupéraient de l'eau. Et certains rituels remontent bien avant la conquête, je dirais, du christianisme dans les Pyrénées.
Il y a quand même beaucoup de vestiges païens.
Voilà, on est sur une période romaine, voire bien avant les Romains, peut-être celtiques. Ça s'est perdu avec le fil du temps. Il y a beaucoup de sites où on a du mal à remonter vraiment aux origines.
Alors, vous avez dénombré pas moins de 1500 mégalithes.
Voilà.
Vous pouvez dire à nos auditeurs ce que c'est que...
Voilà. Alors, bon, déjà, c'est pas moi qui les ai dénombrés.
Oui, j'imagine que vous n'êtes pas amusé à les compter un par un.
Je ne les ai pas tous faits, mais effectivement, il y a des archéologues qui s'intéressent au domaine, et donc à partir de là, qui ont recherché tout ce qu'il y avait dans les Pyrénées. Alors, les mégalithes, c'est tout, les dolmens, les gromlechs, les menhirs.
Les pierres.
Ce sont des pierres qui ont été installées de telle forme à une époque qui remonte à la préhistoire, par qui certaines pierres, quand on voit les dolmens par exemple, que la pierre de couverture en fait plusieurs tonnes, et que la pierre, quand il y a un géologue qui voit la pierre, il se dit mais cette pierre elle vient d'un lieu qui est trois vallées plus loin ou quatre vallées, comment a-t-elle été amenée? Il y a plein d'énigmes autour de ça, on ne sait pas encore tout là-dessus.
Alors j'ai remarqué aussi que justement que certains lieux païens, de croyances païennes, ont été repris par les chrétiens.
Voilà. Ça a été le but. À un moment donné, il fallait bien, au niveau des Pyrénées, on ne va pas dire qu'il y avait des rites de tous les côtés, des sauvages de tous les côtés. À un moment donné, au niveau du christianisme, ils ont essayé, comme on sait tous, d'adopter un monde un peu plus civilisé, avec un dieu, etc. Et donc, à partir de là, il y a des rituels. Ça n'a pas été compliqué de les enlever, mais il y en a d'autres, il a fallu composer avec, parce que les gens, ils étaient tellement accrochés à ces rituels qu'on ne pouvait pas les abandonner. Donc l'Église, en fait, a composé.
Quitte à construire une chapelle, non ? À certains...
Voilà, il y a des endroits... Alors ça, c'est encore d'autres choses. Effectivement, dans les Pyrénées, on a beaucoup... dans tout ce qui est chapelle et ermitage, par exemple, on a la plus grande concentration d'Europe, c'est dans les Pyrénées. De chapelles et d'ermitages, parce qu'il y a toute une histoire par rapport à ça, entre des ermites qui sont venus s'installer, entre effectivement des chapelles pour certains, l'histoire a voulu ça aussi, par rapport à certains miracles ou autres, on en a construit. Il y a plein de choses autour de ça. On peut parler par exemple des chapelles souvent qui ont été construites parce que le berger il est allé son troupeau, un bœuf creusait le sol en permanence et à un moment donné il a trouvé une vie. Vierge. Voilà, alors cette Vierge, bien sûr, ça a sollicité la construction d'une chapelle parce qu'il y a un miracle. Alors ça peut renvoyer à l'histoire, il y a eu des recherches. On dit qu'à une période, il y avait pas mal de barbares quand ils venaient détruire. Les gens qui étaient accrochés à la foi, au lieu de laisser détruire et c'est voler tout ce qui pouvait être statue de la Vierge ou autre,
les enterrer.
Ouais. Et après, on les oubliait et plus tard, on pouvait en retrouver. Il y a toute une histoire.
Et alors, je lis par exemple, et là, ça se passe en, c'est en Haut-Aragon.
Oui.
Au Moyen-Âge, les conjuradors.
Ah, les conjuradors, ça c'est intéressant.
Et oui.
Parce qu'il y en a pas mal dans le Aragon, mais il y en a aussi, on en a quelques-uns
du côté français,
mais ils ont presque tous disparu côté français, alors qu'il y en avait beaucoup. Par contre, dans le Aragon, on en retrouve pas dans tous les villages, mais dans beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tout simplement, c'est un monument, on va dire un monument carré, quatre ouvertures, quatre arches, si vous voulez, donc quatre ouvertures. Et c'est un bâtiment qui servait pour... pour éloigner les orages, voilà. C'est-à-dire que le curé, avec les gens du village, faisait une procession, pouvait partir de l'église, aller jusqu'à ce bâtiment qui pouvait être à côté ou perché sur une colline, et à partir de là, il faisait plein de rituels pour éloigner les orages, voire certains rituels, il prenait la chaussure, il la lançait sur l'orage en l'insultant, l'orage, pour qu'il parte. Et le but, en fait, c'était d'éviter quoi ? Comme les gens vivaient essentiellement de culture, si un orage s'abattait, qui n'avait plus de blé, c'était
tout.
La famine, voilà, c'était grave. Donc, il fallait trouver tous les moyens. Et les cloches en faisaient partie, parce qu'ils avaient en fait, à un moment donné, ils avaient des cloches, que la tonalité de la cloche envoyait des ondes qui pouvaient percer les gros nuages et donc éviter qu'un orage éclate. Donc
d'accord.
Là aussi, il y avait des villages qui avaient des cloches, et c'était très important de remuer les cloches, voilà, pour faire éloigner les orages.
Voilà.
Alors, ça, c'est des rituels qui n'existent plus, mais qui ont existé jusqu'en 1950, 60, 70.
Oui, il y a même eu des processions avec le prêtre en tête quand il y avait une menace de grêle.
Tout à fait, on est d'accord.
Oui, effectivement.
Pour des épidémies, des fois aussi.
Alors, vous avez aussi vu qu'il y a pas mal d'hôtels votifs gallo-romains.
Voilà.
Parce que j'allais vous dire, finalement, effectivement, il y a les rites païens. Il y a des mégalithes, ça remonte peut-être même avant la venue des Romains.
Oui, oui.
Mais il y a également beaucoup de vestiges romains. Vous savez que dans la Barousse, à Esbarèche,
oui,
la fontaine est surmontée de juste les tibias avec une robe plissée, on voit les plis magnifiques, d'une statue. C'est tout ce qui reste, c'est les plis recouvrant les jambes, mais à partir des genoux,
genoux,
et jusqu'aux pieds. Et ça n'a pas bougé, c'est encastré dans la roche maintenant. Donc il y a des vestiges un peu partout. Comment se transmettaient ces légendes, ces croyances?
Alors, il y a plusieurs façons. Par exemple, si on revient aux hôtels votifs, parce que ça va être un rapport, ça n'était une. On va prendre l'hôtel votif, le lieu le plus représentatif, si on dit chez nous, c'est-à-dire vers la Haute-Garonne, je pense que c'est le pic du Gard. Le pic du Gard, d'ailleurs, il est surmonté d'une croix à l'heure actuelle.
Oui, oui, oui.
Ce sommet, il avait une légende. C'était pour simplifier, les femmes ou les jeunes filles plutôt de la vallée montaient au pic du Gard, essayaient de rencontrer.
Mais elles montaient jusqu'au sommet ?
C'est la légende.
Parce qu'elles n'étaient pas équipées.
Mais c'est la légende. On peut imaginer. Oui. Elles allaient au pied du pic du Gard ou en haut. Et le but étant de chercher un jeune homme. À partir de là, il y avait des rituels.
C'est d'ailleurs très drôle. Il y a des anecdotes qui sont vraiment très drôles.
Il y a plein de choses comme ça. Mais chaque fois, ce qui est important de se rappeler, c'est que dans la légende, il y a toujours une part de vérité. Voilà, ça c'est important. Alors, il faut la décrypter, la légende. Et là, par exemple, c'est le cas. C'est une légende où, soi-disant, les jeunes femmes venaient au pic du Gard, essayaient de trouver des jeunes gens qui traînaient par là, s'accouplaient avec. Et après, on ne disait rien. Et jusqu'au jour où la meneuse de ce clan de jeunes filles tombe sur un jeune homme qui était en fait un dieu qui était venu qui était venu se poser sur le pic du Gard pendant un certain temps, elle tombe amoureuse, lui repart, enfin bref, elle meurt, etc. Ça, c'est la légende. Mais au final, les archéologues, c'est ce qu'ils ont fait, ils sont allés sur les lieux voir, etc. Et ils se sont aperçus que sur les pentes du pic du Gard, donc juste le sommet, ils ont retrouvé des hôtels votifs, donc on en revient, un grand nombre d'hôtels votifs qui dataient de l'époque romaine où étaient marqués au dieu du Gard,
Apollon
aussi, il y en a plusieurs. Voilà.
Oui.
Et donc, déjà ça dénotait que les gens venaient pour effectivement ce dieu qui est un dieu de l'amour. Voilà, donc qui venait pour espérer que dans l'année avoir des enfants ou se marier, etc. Et ces rituels, en fait, après les villages, jusqu'aux années 50 à peu près, ou 60, les gens du village montaient en procession au pic du Gard, voilà, toujours dans cette demande-là. Et après, ça s'est arrêté. Mais c'est pas si vieux que ça. 1960, c'est,
Et comme vous dites, alors parfois aussi, par rapport à un fait qui s'est produit par hasard, on en fait une légende.
Voilà, et voilà, il y a de ça aussi. Plein de choses, par exemple, quelqu'un qui va rentrer dans une grotte, à un moment donné, il va trouver, par exemple, une vertèbre, une grosse vertèbre d'ours, de caverne, mais lui, connaissant pas, il se dira une vertèbre comme ça, mais ça peut être que la vertèbre d'un dragon.
Un monstre, oui.
Un dragon. Donc, à partir de là, il va dire, dans cette grotte, attention, il y a un dragon qui vit.
Et après, il y a l'imagination qui court.
Voilà, qui court, etc. Mais au final, là aussi, si on arrive à se dire, bon, il parle de dragon, il doit y avoir quelque chose, on recherche, et bien on s'aperçoit qu'on va trouver des os d'animaux préhistoriques. Ça peut être, pas préhistorique, mais, enfin, préhistorique aussi, parce que l'ours des cavernes, c'était l'époque préhistorique, mais ça peut être aussi des poteries, parce qu'il y a eu une civilisation qui s'est installée pendant un certain temps, ou alors que la grotte, c'est un abri-refuge. Donc, pareil, une civilisation qui était chassée s'y est cachée. Voilà, il y a plein de choses autour de ça. C'est pour ça qu'une légende, ça a son importance.
Bien sûr. Alors, on parle des légendes, on parle de ces croyances, de ces mystères. Et qui se disait, c'était la tradition orale, bien entendu, rien n'était écrit.
Voilà, c'est pour ça. Donc, il fallait transmettre et surtout qu'on s'en souvienne. Un enfant, pour qu'il se souvienne... Je vais vous prendre une autre anecdote.
D'accord. Par exemple, allons rester plusieurs heures, là, parce que des anecdotes, il y en a.
Il y en a, oui. Mais celle-là n'est pas marquée dans le livre, parce que dans le livre, j'ai vraiment pris que des lieux qu'on resituait bien. Mais par exemple, une anecdote qui se faisait à un moment donné dans les Hautes-Pyrénées, quand on délimitait deux terrains, il y avait plusieurs façons de le faire. Soit on plantait des arbres, et en reconnaissant les arbres, on savait que c'était des limites de terrain, mais donc une façon de borner le terrain. Mais on pouvait aussi le faire d'une autre façon, c'est-à-dire quand les gens ils avaient décidé de borner le terrain délimité, ils faisaient venir tous les enfants du village, ils leur faisaient bien voir les limites, tout ça, et à partir de là, ils leur mettaient une dérouillée, c'est le cas de le dire, mais les gamins ils rentraient en pleurant chez eux. Mais vous
et pouvez se être souvenir.
Sûr que 30 ans après, vous leur demandez les limites, ils s'en souvenaient. Et voilà, bon, c'est des choses. Bon, on voit que ça ne se fait plus. Hein,
ah oui, alors ça, peut-être que si on utilisait ces méthodes maintenant, mon Dieu, on aurait beaucoup d'associations. Oui, alors, il y avait ces manières-là, voilà. Donc ils s'en souvenaient et ils racontaient ça à la veillée.
Voilà, et autrement, une histoire simple était effectivement à la veillée. Donc quand on parle de foyer, c'était ça. Toute la famille se retrouvait autour du feu et le grand-père, en principe, ou les parents, mais souvent le grand-père ou la grand-mère, pouvaient expliquer, raconter sous forme de légende, donc, ou sous un fait, mais vraiment en y mettant toutes les formes, en y rajoutant plein de choses.
En brodant.
En brodant, de telle sorte que l'enfant, ça l'intéresse et qu'il s'en souvienne, comme ça, après lui, il pourra le raconter, et ainsi de suite. C'est comme ça que l'on transmettait, en fait.
Voilà. Alors, sur les places du village aussi, il y avait les vieux qui étaient là, sur les bancs, qui parlaient.
Voilà, là aussi, ça, on transmettait des choses à ce niveau-là. Ou par exemple, souvent on prenait des vieux arbres, on en a beaucoup chez nous dans les Pyrénées, qui pouvaient être à l'intersection d'un chemin, les gens s'y retrouvaient dessous parce qu'il faisait chaud l'été, et là chacun se racontait, se comportait, se disait, tiens, moi je viens de là, il s'est passé ça, etc. Voilà, tout le monde, ça c'est important.
Quand vous dites ça, ça veut dire aussi que de village en village, il y avait des colporteurs, il y avait des troubadours aussi.
Des troubadours. Toutes ces personnes étaient là pour transporter de l'information, parce que voilà, il n'y avait pas radio présence à l'époque. Donc, voilà,
oui, mais alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que quand même, quand on sait comment se passent les choses, même actuellement, c'est que, vous savez, c'est comme le téléphone arabe, hein, on dit une phrase et la phrase va être totalement déformée à la fin, donc c'est sans doute ce qui a pu se passer bien des fois.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est inévitable et c'est d'autant plus dur que maintenant, quand on essaye de retrouver la part de vérité, c'est souvent pas simple.
Oui, ils étaient parfois dans les fake news, eux aussi.
Oui, complètement.
Alors, des lieux, quand on parle de lieux, parce que vous avez parlé des mégalithes, vous avez parlé de chapelles, et des lieux aussi particuliers, souvent liés à l'eau, j'ai remarqué. Fontaines, rivières, lacs, sources, ponts même, souvent.
Oui, parce que l'eau, en fait, à l'époque, on peut le concevoir, c'était vital. Donc, automatiquement, que ce soit une tribu, que ce soit même une chapelle qui avait construit souvent, ou quand il y avait un ermite qui s'installait à un endroit, souvent il s'installait dans un lieu où il y avait de l'eau, en fait. Déjà, ça, c'est important. Et en plus, Nous, maintenant, on le sait, mais à l'époque, parce qu'on les analysait, les eaux, mais autrefois, les gens, en fait, c'est par constatation, ils s'apercevaient qu'une eau, s'ils la buvaient ou ils s'en mettaient sur le corps, elle pouvait guérir telle et telle maladie. Donc, à partir de là, quand ils avaient repéré une fontaine comme ça, automatiquement, eux, pour l'expliquer, c'était une divinité. Il y avait une divinité des eaux qui était installée ici, donc il y avait tout un rituel pour l'implorer et pour pouvoir être soigné, et après, bon, on se servait de l'eau. Les relations, souvent, elles étaient comme ça aussi.
C'est comme ça qu'Aluchon, Aluchon, alors par exemple, c'est comme ça que c'est...
Voilà,
c'est
arrêté.
Ça a été connu très, très tôt.
Très tôt, ça a été connu avant les... ils ont retrouvé des traces période romaine, mais je crois que bien avant même. Mais au moins, à l'époque romaine, ils ont retrouvé, je crois, des hôtels votifs, ils ont retrouvé, je ne sais plus, des traces qui déjà parlaient de divinité des eaux, pour les eaux de Luchon, par exemple.
Oui, alors dites-moi, Francis Barrault, oui. Je n'ai pas trouvé sur Axe les termes.
Alors, je ne sais plus.
Alors, attendez, je suis en train de regarder dans l'un, parce que peut-être que je n'ai pas regardé
Ariège.
Dans...
Axe les termes. Normalement, Axe les termes, j'ai mis des deux têtes parce que mille lieux, il faut s'en souvenir, surtout que je ne me suis pas plongé dessus.
Oui, il y a quelque chose. Parce que je crois que ça guérissait soi-disant la lèpre ou des choses comme ça, non?
Oui. Alors est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus. Mais
c'est... Axe les termes, si.
Mais il y a d'autres choses sur Axe les termes. Je ne sais pas que ce
soit. Ah oui,
sources,
l'évangélisateur Udo, voilà. Originaire d'Italie, s'établit à Axe les termes en 445,
voilà,
c'est paraissant, pour convertir la population au christianisme. Après le franc succès de sa mission, il est arrêté et torturé par la confédération des Ostrogoths en 452. Ses bourreaux lui font boire du plomb fondu, ce dont il réchappe miraculeusement. Il l'enferme alors dans un tonneau clouté, puis le balance dans le vide du haut d'une falaise des alentours. Udo pardonnera à ses tortionnaires avant de succomber à ses blessures. Ses reliques sont conservées dans l'église Saint-Vincent à Axe-les-Thermes. Mais, voyez, voilà. Je croyais, mais peut-être que non.
Mais
que
si, c'est possible.
Oui,
c'est possible.
C'est possible.
Mais en fait, voilà, moi, comment vous dire, au niveau des recherches, je suis pas spécialement, j'ai pas spécialement pris, admettons, les sources et recherché toutes les sources qu'il y a sur les Pyrénées, parce qu'en fait, des sources, il y en a plus de 2000 déjà, et ainsi de suite sur tous les sites. J'ai essayé d'une part de diversifier, parce qu'il y a plusieurs sujets comme ça, et en même temps, voilà, c'était en fonction des renseignements que j'avais. Donc je m'aperçois maintenant, avec du recul, que je pourrais refaire un autre livre, voire un troisième.
Parce que des gens vous sites, apportent d'autres renseignements.
J'ai d'autres renseignements et j'en trouve de nouveaux. Et des sites, en fait, il y en a, moi j'en ai relevé 1000, mais il y en a 3, 4, 5 000 sans problème.
C'est étonnant.
C'est énorme. Ces sites, ils existent encore et le but, ça serait rien que de les protéger. Et ce qui est dommage, il y en a qui tombent, des chapelles qui tombent en état en ruine, que plus personne ne les restaure.
Alors qu'il y a une histoire.
Que ça peut être des miracles, ça peut être plein de choses, et c'est dommage.
On va reparler des miracles, mais en vous lisant, je me suis dit, mais est-ce que toutes les régions de France ont cette richesse du souvenir, ou est-ce que c'est particulier aux Pyrénées?
Je pense que oui, je pense que toutes les régions de France, voire au-delà, ont cette richesse de par l'histoire, et je pense qu'il y a des régions plus que d'autres, mais je dirais que oui.
Oui, d'accord. Ouais. Alors, on va faire une pause musicale. On va écouter, devinez quoi, un chant pyrénéen.
Ah, lequel?
C'est à vous qui allez me le dire.
Hera. Est-ce qu'on connaît Hera?
Non, pas forcément.
Ben on va l'écouter.
D'accord.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Nous reprenons notre entretien avec Francis Barrault, qui nous a apporté deux livres précieux pour les amateurs d'histoire, pour les amateurs de légendes, pour les amateurs de randonnées, de visites. Ces deux ouvrages s'intitulent « Mille lieux légendaires et mystérieux des Pyrénées ». Alors, l'un couvre l'Aude, les Pyrénées orientales, la Catalogne, l'Andorre, l'Ariège, la Haute-Garonne, et le tome 2 parle du Pays Basque, de la Navarre, du Béarn, de Haut-Aragon et des Hautes-Pyrénées. Parce qu'il faut dire que Francis Barrault ne s'est pas contenté du versant nord, du versant français, mais également du versant espagnol. Alors Francis Barrault, oui, il y a encore beaucoup de choses à dire. On a parlé des lieux liés à l'eau. Souvent, vous disiez que c'était précieux, mais parfois, il y a des lacs maléfiques aussi, non ?
Oh oui, bien sûr, oui. Il y a des lacs où on peut y... Enfin, il y a de tout. Il y a des lacs où on peut y trouver effectivement des fées. D'autres, il y a le diable. Il ne faut pas l'oublier, lui. Voilà, il y a d'autres où il y a des trésors cachés aussi. Certains, d'ailleurs, on dit dans certains lacs, je pense, eh bien, au lac du diable, au lac noir, qui est au massif de Saint-Barthélemy, donc voilà un massif aussi qui a été christianisé à une certaine période, ouais, parce qu'il s'y passait de tout là, ce massif, et là dans ces lacs il paraît que si on y jette un caillou là au bout d'un moment les eaux commencent à bouger, le brouillard arrive et soi-disant qu'on se perd, on ne rentre pas facilement à la maison, voire l'orage arrive, enfin voilà,
même
y a plein
si
de
on n'y croit
ça.
Pas on peut être inquiet.
On est d'accord, on peut l'être, voilà.
Voilà, alors en fait donc on voit aussi qu'il y a beaucoup de chapelles qui se sont construites en remerciement parce qu'il y a eu une sorte de miracle.
Voilà, en fait à une période il y a eu plein de choses, ouais. Il y a eu déjà une chapelle, elle n'était jamais construite
par hasard.
Oui,
c'est un lieu, bien sûr.
Voilà, soit tout simplement en plein été, il y avait par exemple de la neige qui se mettait à tomber à un endroit bien précis. Donc, ben voilà, là c'était l'occasion de
oui, créer, c'était surnaturel.
Voilà, donc de construire une chapelle. Voilà, il y avait plein de qu'est-ce qu'il y avait aussi. Comme on dit, on parlait du taureau aussi qui pouvait creuser dans un endroit précis et trouver une vierge, une statue de la Vierge. Donc à partir de là, voilà, le lieu, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une chapelle qui soit construite. Tout simplement aussi, dans un autre endroit, on pouvait tomber sur une statue, dans un fourré par exemple, les gens découvraient une statue, se disaient, bon, on va la ramener à l'église, et cette statue, elle revenait par elle-même à l'emplacement d'origine. Donc là, on pouvait construire aussi une chapelle. Voilà.
Parfois, c'était en remerciement.
En remerciement aussi, quelqu'un qui, par exemple, on va partir en bordure de mer ou même en montagne, quelqu'un qui à un moment donné se retrouve en difficulté, en danger, va prier un saint par exemple, et s'il en ressort, eh bien, il a, en priant, il a dit moi j'installerai une chapelle à tel endroit, et bien sûr la personne sortant indemne de la situation a crié au miracle et a fait construire une chapelle à tel endroit. Voilà. Oui. Ça on le retrouve sur toutes les Pyrénées. On parle aussi des chapelles Saint-Roch. Saint-Roch, à un moment donné quand il y avait des épidémies de peste ou autre, on priait Saint-Roch et les épidémies pouvaient s'arrêter. Parce que lui, là, voilà, ça a été un saint, comme on sait tous, qui, à un moment donné, s'occupait des gens qui avaient la peste, des pestiférés, et lui-même avait attrapé la peste, s'était retiré dans une forêt, et bien sûr, il avait trouvé une source, mais après, il y a un chien qui venait comme ça, qui venait lui amener à manger régulièrement, et donc il s'en est sorti, et voilà, et il a continué à aider gens qui avaient la peste, et c'est pour ça en fait il est
oui,
devenu
alors,
insane,
justement
voilà,
ça nous rappelle
ça.
Ça nous rappelle aussi parce que ça donne envie encore même d'aller encore plus loin, ouais. Ça nous rappelle qu'il y a eu de grandes épidémies de peste, pas seulement dans les Alpes en Provence,
non,
parce que Giono en a parlé, ouais, mais dans les Pyrénées, et il y a même des villages entiers qui ont disparu à cause de la peste,
voilà, complètement, qui ont disparu, et d'où est souvent le seul monument qui peut rester. ça peut être voilà, une chapelle, chapelle Saint-Roch.
Ouais.
Des fois, c'est le seul monument. Voilà, c'est vrai que ça me fait penser dans les baronnies, par exemple, un endroit, il y a un très très vieux chêne, et c'est le repère. Et ce chêne, en fait, il est juste à côté d'un ancien village qui a disparu à cause de la peste. Mais voilà, depuis tout temps, on sait que le village était au sud du chêne, et le chêne, il a plus de, je sais pas, 300 ou 400 ans.
Il existe encore.
Il est encore là. Et ouais. Voilà, bon, c'est, ouais. Effectivement, il y a plein de choses comme ça. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais.
Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier encore au siècle dernier, je crois. Enfin, peut-être au 19e siècle. On parlait des cagots.
Oui.
Et en particulier dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées.
Oui.
Est-ce qu'il y avait des histoires par rapport à eux? Alors, les cagots, rappelez à nos auditeurs de quoi il s'agit.
Voilà,
alors, il s'agit.
Voilà, les cagots, on va. En fait, c'était un peuple qui vivait sur toutes les Pyrénées, mais effectivement, et il est bien représenté sur les Hautes-Pyrénées. C'est un peuple qui était considéré comme malsain.
Débile. En fait, on a découvert longtemps après qu'en fait, c'était des gens qui manquaient d'iode.
Oui, parce qu'ils étaient tout petits. Ils pouvaient avoir une malformation, mais je reste prudent. C'est tout simplement comme ils étaient un peu différents des autres, donc on les considérait comme des pestiférés.
Oui, mais ils se mariaient entre eux et du coup,
ils étaient
une population.
Voilà, ils étaient aussi à part. Oui. Ils étaient considérés à part. Alors comment c'est arrivé? Est-ce qu'effectivement il y en a un qui était malade à un moment donné et qui l'a transmis une épidémie? C'est possible, mais à partir de là, ça a été un peuple qui a été mis à part. Donc effectivement.
Et ils avaient des pouvoirs?
Alors non, ils n'avaient pas de pouvoir, mais par contre, effectivement, ils ont commencé à se reproduire entre eux parce qu'ils étaient vraiment mis à part. Ils n'avaient accès à rien. S'ils allaient dans une église,
ils avaient une porte dérobée.
Au mieux, une porte dérobée. Oui. Et au pire, c'était une fenêtre où, à côté de la fenêtre, il y avait...
Une sorte de mouchard à biais.
Une grille qui permettait en fait de voir la messe sur le côté, mais vraiment ça s'arrêtait là. Ils avaient un bénitier à eux, pour eux aussi.
Vraiment totalement tout était
mis à l'écart, voilà, complètement.
Oui.
Les seuls métiers qu'ils pouvaient pratiquer, c'était le bois, la pierre, il me semble aussi, parce que c'était des métiers qui ne transmettaient pas la maladie. Donc à partir de là, dans ces métiers, apparemment, ils étaient très forts. Parce que quand on leur disait de construire un pont, ils faisaient ça, mais d'une façon impressionnante, à tel point que les gens, bien sûr, disaient « Mais non, pour faire ça, ils sont aidés du diable. » D'où souvent le rapport dans toutes nos vallées, on a des ponts du diable qu'on appelle. Alors la légende veut que c'est toujours pareil, un humain qui, voulant construire un pont rapidement, appel au diable. Et le diable, bien sûr, en échange d'une âme construite, le pont à une nuit, mais l'âme qui lui espérait était humaine, c'était tout simplement un chat ou un coq qu'on faisait passer, et donc le diable se sentant berné, repartait, bon voilà. Et ça, on pourrait mettre la relation avec eux, parce qu'apparemment c'était des
gens qui étaient... Oui, parce qu'il y a eu plusieurs pactes avec le diable.
Mais complètement.
Une fois, c'était pour construire un pont, une fois pour construire un château avec beaucoup de pièces. Hein.
Voilà, alors on retrouve ça, voilà. Il y a un château, il fait sur l'Espagne, où il y a 900 et quelques pièces.
C'est incroyable,
énorme.
Oui.
Et alors,
et
voilà.
Il existe vraiment encore?
Oui, il existe vraiment.
Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Je suis pas allé le voir, mais il existe.
Mais il n'a pas 900 pièces, finalement.
Et en fait, il n'est pas loin.
889.
Il est énorme, mais il y a une partie en ruine. Enfin, voilà, il n'est pas entièrement... Voilà,
et le pacte avec le diable, c'était pour l'aider pour aider cet homme à terminer son château.
Voilà, c'était quelque chose comme ça. Pour terminer ce château, je ne l'ai plus en tête, la légende, mais c'était quelque chose comme ça. Mais souvent, c'est ce qui revient, de toute façon, que ce soit pour les châteaux, que ce soit pour les ponts.
Femme aussi, il y en a un qui est amoureux d'une belle et jolie femme, mais lui est pauvre, et il fait un pacte avec le diable pour avoir de l'argent et pouvoir l'épouser.
Mais
en échange, c'est l'âme.
Alors, bien sûr, chaque fois, on fait en sorte au dernier moment de trouver une ruse pour ne pas donner l'âme au diable. Voilà.
Imagine très bien ces histoires racontées à la veillée. Et j'imagine la tête des enfants qui devaient écouter. Attendez, c'est drôlement mieux que la télévision.
Ah, mais on est d'accord. Oui. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y avait un rôle aussi éducatif. Un lieu, par exemple, on parlait de lac, si on ne voulait pas que des enfants s'approchent trop près d'un lac, ça pourrait être dangereux. Oui. Alors, bien sûr, on allait lui dire de ne pas y aller,
qu'il y avait un monstre,
un dragon, ou alors le diable, etc. Donc, à partir de là, les enfants ne s'y approchaient pas. Voilà, il y avait tout un... C'était éducatif aussi, il y avait plein de choses.
Alors, on a parlé dans certains ouvrages scientifiques d'enfants ou de sauvages.
Oui, oui.
Alors, est-ce qu'il y en a eu là dans vos sites, vous avez retrouvé ça aussi?
Oui, alors, effectivement, les premiers qui... en fait, il y en a eu plusieurs. Souvent, soit c'était des bergers, soit ça a été les ingénieurs de la Marine Royale, ça c'est important. À un moment donné, ils ont commencé à faire du débardage dans des vieilles forêts comme les forêts d'Irati au Pays Basque ou celle d'Issot aussi dans le Béarn et tout ça pour extraire en fait des sapins et ces sapins ils servaient à la fabrication des mâts des bateaux de la marine.
Oui,
voilà.
Oui.
Et donc quand ils sont rentrés dans ces forêts ils ont en fait souvent rencontré des hommes et des femmes sauvages. La plupart du temps, ils ont essayé de les attraper quand ils ont réussi, mais ils ont été remis, bien sûr, dans des hospices parce qu'ils ne savaient pas parler ni rien. Oui. Mais rapidement, bien sûr, ils mouraient. Soit en contact avec d'autres personnes, ils attrapaient des maladies, etc. Oui. Donc, des personnes sauvages comme ça, il y en avait. Pourquoi ? Parce qu'étant jeunes, elles se sont perdues dans les forêts. Et après, ben voilà, ou elles mouraient, ou alors elles arrivaient à survivre. Donc, c'était souvent le cas. Mais il y a une histoire qui est très intéressante. C'est la femme sauvage qu'ils ont retrouvée à Tarascon sur Ariège, enfin, dans la vallée de Vixesos plutôt, plus précisément, c'est les bergers. Ils amenaient leurs moutons régulièrement et ils voyaient une femme nue, sauvage. Alors ils avaient essayé d'attraper plusieurs fois, ils n'y arrivaient pas. Et une fois, il y a un hiver très rude et là ils se sont dit, oh, cette femme elle va mourir, c'est pas possible. Et en fait, l'année après, le printemps, ils l'ont revue, elle se baladait. Donc là, ils ont réussi à l'attraper. Elle a réussi à dire qu'elle vivait en fait avec un ours, donc du coup, l'hiver, elle n'avait pas froid, mais elle parlait très peu en fait. Et du coup, ils l'ont mis au château de Foix, où elle a été un peu interrogée, et en fait, elle est morte rapidement à cause de maladie. Mais de là, il y a eu des recherches de fait, et en fait, cette femme, il s'agissait d'une aristocrate, parisienne, qui avait fui pendant la Révolution française, donc avec son mari, pour pas se faire trancher la tête à l'époque, qui avait fui donc et qui s'était réfugiée en Espagne, comme ça se faisait souvent. Et après, quelques années plus tard, quand ils avaient l'opportunité de revenir en France, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris le chemin du retour avec son mari et un enfant. Et en fait, ils se sont fait agresser. Lui, le mari s'est fait tuer, l'enfant aussi. Et elle s'est faite violer. Et suite à ça, en fait, elle a perdu la tête. Et donc, elle est restée dans les Pyrénées, toute nue, pendant un certain temps, jusqu'à ce, comme je vous dis, qu'on la retrouve, etc. Et ça, c'est une histoire vraie.
Oui,
c'est, tout
oui
ça, c'est
alors comme
vraie.
Vous dites, il y a beaucoup de légendes qui partent d'un fait réel. Donc,
complètement,
ça, là,
complètement,
ont...
voilà.
Oui.
Et là-dessus, ils ont sorti un livre qui est énorme. Enfin, mais c'est,
oui, parce voilà, qu'il y a eu L'enfant sauvage de Truffaut, qui avait fait un film. Hein.
Oui,
c'était pas
enfants,
dans, c'était pas dans les Pyrénées.
Non, ça devait être dans l'Aveyron, je crois.
Dans l'Aveyron.
Mais en fait, dans beaucoup de départements français, on en revient, des enfants sauvages, à un moment donné, que ce soit suite aux guerres ou autre, il y en avait beaucoup.
Oui, enfants, et puis la misère, parfois, faisait
misère,
que les parents pouvaient,
aussi,
comme le petit poussé.
Voilà, les abandonner.
Et
il y avait plein de choses autour de ça. Mais ça, voilà, c'est des histoires importantes.
Alors, ce que j'avais appris, c'est qu'en fait, au Moyen-Âge, les animaux étaient très présents. Il y en avait beaucoup, beaucoup plus que maintenant, puisqu'on a réussi à décimer pas mal de monde, de faune, d'animaux sauvages, et qui étaient proches, finalement, des villages. Et les gens en avaient peur. Alors, évidemment, il y avait les loups, évidemment, il y avait les ours, mais aussi, j'ai appris qu'il y avait les taureaux. Ils ont des histoires aussi, les taureaux. À Font-Romeu en particulier. Alors, je ne sais plus.
Les histoires. Oui, moi, celle que j'ai au niveau du taureau, c'est ce qu'on en revient, c'est le fameux taureau qui gratte et qui trouve une vierge. Et là, on va construire une église. Ça, par rapport au taureau, j'ai ça. Parce que le taureau, en fait, ça a toujours été la relation, il me semble, au niveau entre.
De sexualité.
Voilà, il y a plein de choses autour de ça, voilà. Donc c'est pour ça, mais après, au niveau des animaux sauvages, j'en parle pas trop en fait en relation avec les humains. Là où je peux en parler, c'est quand je parle des, vous allez voir pourquoi, des linteaux de porte, parce que j'en parle, des heurtoirs et des poignées de porte. On ne s'en rend pas bien compte, mais si on regarde dans tous les villages, on va s'apercevoir, par exemple, qu'une poignée de porte, elle peut avoir une forme particulière. Et ça, c'est symboliquement, chaque fois, ça représente quelque chose.
C'est comme vrai, vous voyez, on ne fait pas attention.
C'est important, parce que la maison, ça séparait du monde extérieur, c'est-à-dire c'était le monde intérieur, le nôtre, ou le côté cocooning, le côté où on était rassuré et que le monde extérieur c'était le danger. Donc la porte marquait un arrêt.
Oui.
Et donc à partir de là, il y avait plein de symboles au niveau de la porte qui pouvaient soit donner envie de rentrer dans la maison ou au contraire s'éloigner. Et là, il peut y avoir effectivement le taureau qui peut être représenté.
Alors à Font-Romeu, Notre-Dame de Font-Romeu est le témoin d'un pèlerinage dont la procession est considérée comme la plus importante de la région. D'après la tradition, on raconte qu'un fermier qui faisait paître son bétail dans un champ, vit un taureau s'esquiver du reste du troupeau pour se rendre près d'une fontaine. Il creusa ardemment le sol en poussant des beuglements extraordinaires. Le fermier rejoignit l'animal et découvrit qu'une statue, ce que vous racontiez, de bois, une statue représentant la Sainte Vierge, haute de 66 cm, ce qui était déjà assez grand, et portant l'enfant sur ses genoux, il s'empressa de courir annoncer le miracle et la communauté rendit grâce en construisant une chapelle aux abords de la fontaine. Et c'est grâce à un taureau.
Voilà, ça revient sur toute la chaîne des Pyrénées. Là, il n'y avait pas besoin de radio quoi que ce soit pour transmettre l'info. Que ce soit ce genre de légende, on retrouve la même identique pratiquement sur toutes les Pyrénées, sur beaucoup de chapelles construites. Et même côté espagnol que français. Voilà, donc à un moment donné, comment l'expliquer ?
Alors, vous parlez de loup, vous parlez de taureaux, vous parlez d'ours aussi. Et puis le dragon. Alors, c'était les gros lézards ou quoi ?
Alors, le dragon, ça m'a interpellé effectivement, parce qu'on en parle sur toutes les Pyrénées, mais ce qui revient souvent, effectivement, c'est un lac qui peut être construit par un dragon, parce qu'un dragon qui a été tué par un forgeron qui lui a fait avaler prendre des fers chauds, donc ça a permis de le tuer. Lui, pour se désaltérer, il boit toute l'eau, et quand il meurt, il recrache cette eau qui forme un lac. Souvent, ça revient.
Ah,
mais
oui.
On retrouve aussi rapidement des témoignages qu'on peut retrouver même au niveau gendarmerie dans des relevés en fait qu'ils ont fait. On retrouve des témoignages de personnes qui ont vu une sorte de gros lézard, un peu je dirais comme le varan de Komodo. Alors ils le décrivent très laid, etc. Mais sur certaines périodes, ça s'est passé très courte.
Mais à quel moment
précis,
à quelle époque
Vers 1880.
Tardivement.
Oui, très tardivement. Après, il y en a d'autres un peu plus tôt du côté de Rivesaltes, mais qui ont donné des légendes, mais c'est des choses que l'on retrouve. Et alors, et en même temps, on n'a plus rien par rapport à eux. Est-ce que c'est des bêtes qui ont existé à un moment donné ou qui ont été rapportées, qui sont décédées? On n'a jamais retrouvé de traces. Mais n'empêche qu'elles y sont. Le crocodile aussi revient souvent, qu'on a confondu avec un dragon, et dont à Saint-Bertrand de Comminges, si par exemple, on va dans la cathédrale Saint-Bertrand de Comminges, quand on est rentré sur la droite, si on regarde au mur, il y a un grand crocodile accroché.
Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là?
Voilà, et en fait, là aussi, c'est Saint-Bertrand à l'époque, quand il est arrivé à Saint-Bertrand de Comminges, quand il est arrivé, on lui a dit qu'il y avait un dragon dans la vallée qui dévastait tout, donc il y est allé avec son bâton. En fait, il a ramené ce crocodile et qui est mort devant la cathédrale. Et à partir de là, il a mis un symbole, un ex-voto.
Voilà.
Mais voilà, c'est une légende, mais n'empêche que le crocodile, il y est. Alors, où est la légende et où est l'histoire?
Mais alors, est-ce que dans une époque très lointaine, il y avait peut-être des crocodiles.
Alors apparemment, ce qui en ressortirait, c'est les gens, c'est les personnes qui allaient à l'étranger, donc lors de guerre ou autre,
et qui revenaient,
qui pouvaient ramener un crocodile.
Ah
voilà.
Un animal de compagnie.
Tout à fait. C'est les chevaliers qui pouvaient faire ça quand ils allaient en Terre Sainte ou autre.
Ah oui, d'accord.
À des moments, ils pouvaient passer l'endroit et ramener des crocodiles et donner ça comme des dragons ou autre, offrir ça. Enfin, ça serait plutôt dans ce sens-là. Mais l'histoire du varan de Komodo, ça, apparemment, c'est quelque chose qui serait exploité davantage. Voilà.
Alors, évidemment, il y a tout un peuple imaginaire, les fées, les ogres, les croque-mitaines, des nains aussi, comme dans Blanche-Neige.
Les géants aussi.
Les géants, voilà. Alors, il y a le caillou de l'enchanteresse. C'est quoi? Je ne me souviens plus, là, maintenant.
Le caillou de l'enchanteresse.
Caillou de l'enchanteresse, c'est à la page 18, je crois. Mais je sais plus, je sais plus.
C'est pas le caillou, parce qu'on avait des cailloux aussi qui avaient des formes naturelles, mais qui pouvaient faire peur ou autre. Et souvent, on parlait de personnes qui ont été pétrifiées. Ou alors que ça pouvait être une fée qui vivait dans ce lieu.
Oui.
Voilà, il y a tout ce côté-là aussi, ça, il ne faut pas l'oublier aussi, ouais, tout à fait.
Oui, voilà. Alors, les fées, il y en a beaucoup, des ogres, bon, un peu moins, il me semble, finalement.
Des ogres, moins. On retrouve Gargasse, vite fait, Gargasse, qui est donc la grotte.
Les grottes de Gargasse,
voilà.
Oui.
Mais là, à un moment donné, vivait une personne. Alors, il y en a qui ont dit. Oui, il est l'ordre. Il y en a qui ont dit qu'il était, que c'était un géant, mais apparemment, c'était une personne qui se nourrissait de chair humaine, voilà, et qui a été recherchée beaucoup par la police,
oui,
et qui est partie vers le pic d'Annie, survivre dans
un
des grottes.
Et
voilà, on pense à lui, oui.
Alors, on pourrait parler encore, oui, voilà, de choses qui sont incroyables, mais, et puis, alors ça peut être drôle, mais parfois, moi je me suis rendu compte qu'il n'y a pas qu'à Lourdes que la Vierge est apparue, à
non,
plusieurs
non,
endroits.
Non,
bon,
à plein d'endroits.
Et donc, à ce moment-là, évidemment, il y avait la construction d'une chapelle.
Ouais.
Il y a les légendes liées aux montagnes, vous en avez parlé, le massif du Gard, le mont Canigou également.
Voilà, le mont Canigou en fait partie aussi. Il y a plein de montagnes comme ça qui ont été d'ailleurs christianisées par la suite, parce que dessus il y avait des dragons, des légendes,
voilà.
Les gens venaient faire les processions.
Alors,
etc.
On pourrait parler aussi des stèles discoïdales, mais
oui.
Écoutez, les auditeurs seront des lecteurs. Parlez sur le chemin de Compostelle pour terminer. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses?
Il y en a quelques-unes, ouais. Ce qu'on peut retrouver, c'est là aussi des chapelles où il y a eu des miracles. On peut retrouver aussi l'histoire qu'on retrouve sur des chapiteaux à Tarbes, dans un jardin, ils ont remis des anciens chapiteaux, où il y a l'histoire de cette fameuse l'enfant, le père et l'enfant qui, en faisant chemin de Compostelle, passe à Toulouse, s'arrête dans une auberge, la femme de l'auberge fait des avances aux jeunes qu'il refuse, de là elle l'accuse de vol, il est pendu, le père part à Compostelle, il revient pour récupérer son fils, il s'aperçoit qu'il est vivant, et le fils dit qu'il est soutenu par Saint-Jacques, voilà. Donc
d'accord,
on le décroche, voilà
ça,
le miracle,
oui.
On le décroche, et c'est plutôt la femme qui a été pendue par
d'accord.
la suite.
Ah, oui.
Et ça, c'est un mélange entre histoire et légende. Alors,
où
commence l'un, où finit l'autre.
Oui, la réalité,
pas.
Voilà.
Il y a des choses comme ça aussi.
En tout cas, je peux dire aussi qu'il y a beaucoup de photos en couleur qui agrémentent l'ouvrage.
Oui.
Des photos qui sont de vous.
Oui, tout à fait, la plupart sont de moi.
Voilà, et je dirais aussi, écoutez, c'est un livre, c'est deux livres à posséder pour parcourir les Pyrénées. Alors je dirais que pour ceux qui aiment l'histoire, pour ceux qui aiment les légendes, pour ceux qui aiment les Pyrénées, mais ceux qui aiment aussi justement ce côté un peu irréel, un peu mythique, mystérieux, parce que c'est souvent, il y a des histoires qui peuvent être drôles, qui peuvent être inquiétantes, mais souvent émouvantes, parce que pour moi là on a des témoins d'une population qui a vécu avant nous dans la joie mais dans l'adversité aussi, parce qu'ils ont, il y a eu des époques terribles, on parlait tout à l'heure de la peste,
ouais.
de la famine également, ouais. Ils n'avaient pas de congélateur eux,
ouais.
Et une population qui a su résister et grâce à qui nous sommes là finalement.
Voilà, tout à fait, qui ont pu s'adapter effectivement.
Voilà.
Et dans ces livres rapidement on retrouve effectivement chaque fois, je mets des sites et je précise où se trouvent les sites. Donc
voilà,
on peut
vous
aller
précisez
les voir sans
bien,
problème.
Exactement.
Voilà.
En tout cas, un grand merci Francis Barraud.
Merci.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de 1000 lieux légendaires et mystérieux des Pyrénées. Alors, il y a deux volumes. Suivant les lieux qui vous intéressent, vous pouvez acheter soit l'un, soit l'autre. Moi, je vous conseille de lire les deux. Et puis, merci encore.
Merci, c'est des livres à offrir, oui. Merci.
Voilà, des livres à offrir, absolument.
Ouais, merci, au revoir.
Au revoir.